las conferences de Radio Languedoc. Veille, vous préparez une conférence de Alain Alcouf, économiste et enseignant à l'Université de Toulouse 1. À quelle conférence est stade enregistrée dans l'encastre du colloque sur Robert Laffont, organisé par Gardar en la Terre, le 26 et 27 de septembre de 2009, à Nîmes.
Bien, mesdames, messieurs, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de parler de Robert Laffont. Et je traiterai surtout de son œuvre en tant qu'économiste et de ce qu'il a pu apporter à l'analyse économique autour du concept de colonialisme intérieur. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je parle bien sûr aujourd'hui devant vous de Robert Laffont. C'est quand on a commencé à parler de ce colloque, c'était au mois de janvier, et on ne connaissait pas bien sûr la fin de Robert Laffont au mois de juin, et donc l'état d'esprit était un peu différent, mais je crois quand même, je vais parler sans complaisance, comme a dit notre présidente tout à l'heure, malgré tout. Je crois que c'est ce que mérite justement le travail et le sérieux de la production intellectuelle très considérable de Robert Laffont. Donc pour ce colloque, j'ai relu La Révolution régionaliste. Peut-être j'ai lu plus en détail et j'ai été vraiment... très heureusement surpris de retrouver une richesse absolument exceptionnelle dans ce livre, une très grande complexité. On a parlé de simplicité tout à l'heure, en fait c'est extrêmement subtil et extrêmement complexe. Et je vais essayer de montrer rapidement, donc on a eu un petit problème, donc je ne sais pas, vous m'avez dit que je pourrais parler 15 minutes, 20 minutes, bon il y a eu, je crois que je ferai un peu de place pour une autre intervention, qui est d'ailleurs, d'une certaine façon, articulé avec ma propre présentation, parce que, ça a déjà été dit par Raphaël, je crois que l'expérience catalane et la fraternité entre nos langues a joué un très grand rôle dans l'œuvre de Robert Laffont. Donc, je parlerai assez rapidement. Pour laisser plus de place au débat et à d'autres interventions, je parlerai très rapidement de trois thèmes. La façon dont est né le concept dans la révolution régionaliste, la diffusion de ce concept, je serai très bref, et d'une certaine façon, ce qui s'est passé après. Donc nous avons eu deux analyses déjà de l'œuvre de Robert Laffont, et pour avoir guerroyé avec François Dubé et Paul Alliès dans d'autres temps, je dois dire que leurs analyses, il y a une certaine convergence entre nos analyses, je crois, aujourd'hui, plus fortes qu'il y a 30 ans. Donc, trois temps. Si vous voulez, pour présenter le concept de colonialisme intérieur, on y a déjà fait beaucoup allusion. Je remonterai à 1954, Mistral ou l'illusion, et c'est d'une certaine façon l'adieu à une certaine conception du mouvement occitaniste centré sur la langue. Je reviendrai là-dessus. Donc il y a en fait 12 ans entre... 13 ans même, entre Mistral ou l'illusion et la révolution régionaliste. Donc c'est une période extrêmement riche, et je crois qu'il sera intéressant de revenir un petit peu là-dessus. Donc on a parlé de... Alors cette analyse du colonialisme intérieur, on va la retrouver, d'une certaine façon, sur la France, semble s'éloigner de là, mais c'est peut-être pour éclairer un des fondements politiques essentiels des positions de Robert Laffont, c'est-à-dire sa conception de la France comme nation révolutionnaire, un attachement fondamental, une analyse sur laquelle, je crois, il n'est jamais revenu, et qui crée beaucoup d'incompréhension hein, de toutes parts, parce que c'est une conception de la nation extrêmement subtile, et un positionnement assez particulier. On est surpris quand on le revoit, parce que souvent le message de Robert Laffont, ce message-là de Robert Laffont, n'a pas été, me semble-t-il, complètement perçu. Et donc il y a une déclinaison ensuite, hein, décolonisé en France, le Sud et le Nord, clé pour l'Occitanie, c'est d'une certaine façon voilà, la revendication occitane. Je crois qu'un grand élément par rapport à cette chronologie, cette diffusion du concept de colonialisme intérieur, c'est bien sûr la mort de Franco en 1977, personne ne l'a mentionné. 75, pardon. la mort de Franco et la généralitat qui est restaurée, je crois que c'est un point, un tournant absolument capital. Donc, ça appartient à la première période. Pour l'Occitanie, c'est une déclinaison du concept de colonialisme intérieur avec quelques petites variations. On pourrait épiloguer beaucoup là-dessus. Donc, 1980, Jordi Pujol est président de la Généralitat, et il va y avoir, je crois, un élargissement de la vision de Robert Laffont, et sur une prise en compte plus large, je crois, d'autres voies dans lesquelles peut s'incarner une revendication nationalitaire, un mouvement régionaliste, etc. Et nous avons, j'ai consulté un certain nombre d'autres documents, d'autres livres, qui sont, c'est un travail très considérable, qui n'est pas entièrement achevé, parce que l'œuvre est très importante, et d'un ouvrage à un autre, ce ne sont pas des répétitions, c'est souvent des approfondissements, des nuances, qui seraient intéressantes de pouvoir suivre. Paul Alliez le disait que ça méritait des études approfondies. Je crois que c'est vraiment le cas et aujourd'hui ça sera simplement un point de départ. Donc, que nous dit Robert Laffont dans Mistral ou l'illusion ? Bien, moi, ce que j'ai retenu, c'est bien sûr le dernier chapitre, c'est 1907 quand il évoque le rendez-vous manqué entre la révolte viticole et le félibrige. Il y a la rencontre réelle ou imaginée entre Féroul et Mistral. Et la conclusion de ce que retire Laffont nous dit « Les masses rurales poussées à la misère par l'inertie gouvernementale prennent parti pour elles-mêmes, pour leur spécificité de mœurs, de situation et même de langue. » Ça, je crois que c'est une analyse clé qui sera sous-jacente à toute sa démarche et les débouchés qu'il voit ou l'espoir qu'il peut avoir pour un projet occitan, il le met sur ces masses poussées à la misère. Alors c'est les masses rurales en 1907, ce sera élargi bien sûr par la suite comme vous le savez. Donc à présent, je fais quelques... J'ai essayé de voir, et Robert Laffont est très rigoureux là-dessus. Il cite ses sources et ça facilite beaucoup les recherches. Bon, l'idée, le terme de colonisation intérieure a flotté dans ce que Vincent Duclerc appelle aujourd'hui les facteurs qui ont amené la deuxième gauche à s'épanouir à partir des années 50. Pour lui, c'est les années 50 déjà. Donc, c'est Pierre Mendès-France et le Vietnam, juillet 1954. C'est la fin annoncée de l'Empire français. Et se pose la question, il y a eu le Vietnam, il y a la Tunisie. Et après, qu'est-ce qui va venir ? Donc, il y a un article de la revue Esprit de décembre 1957 qui pose le problème de la décolonisation de la France et qui plaide pour régionalisme ou une nouvelle structure, une nouvelle composition. Donc Charles Brindillac, c'est un énarque qui est conseiller d'État. Son vrai nom, c'est Olivier Chevrillon. Il sera, et je crois qu'il est encore quelqu'un d'important à la revue Le Point. Et dans ce numéro d'esprit, il écrit avec Georges Suffert. Et donc il y a une certaine effervescence intellectuelle qu'on peut rapprocher aussi du Club Jean Moulin. Il faut repenser la France de la 4e République, il faut sortir de là. Alors, comment on va sortir de là, ou quel sera l'élément déclencheur qui fera passer de discussions de droit administratif, finalement, à des réalités politiques et économiques? Eh bien, c'est bien sûr la grande grève de décembre 1961 à février 1962. Donc 66 jours avec occupation des puits, grève de la faim. Et curieusement, bien sûr, par rapport à la suite, et le fait que région et Europe seront deux façons de penser la remise en question des États-nations, cette grève, c'est la suite d'un plan qui émane de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui prévoyait donc la fermeture de toutes les mines de Decazeville pour rentabilité insuffisante. Alors là, un petit problème de timing. Le premier, je crois, qui va vraiment lancer cela, on l'a dit, c'est Serge Mallet, dans un article de France Observateur, je ne me trompe pas, c'est le 11 janvier 1962, et il me semble, mais il y a ici des témoins qui pourront me corriger, excusez-moi pour le lapsus tout à l'heure, je crois que le COEA, c'est février 1962, et c'est donc concomitant, disons, ou légèrement postérieur à l'article de Mallet, dans lequel il y a une analyse du mécanisme économique du colonialisme intérieur qui est fort intéressant et qui est bien développé. Donc si on avait du temps, il faudrait remettre cela dans les fermentations de la deuxième gauche, le rôle de Mallet, qui est un personnage assez intéressant. Moi, je vois aussi, et c'est une source lointaine, il y a quand même une continuité. On pourrait faire remonter ça aux anticonformistes des années 30. Et un livre, bien sûr, qui a été très important, et un personnage qui fait l'objet de beaucoup d'études aujourd'hui, c'est Gravier et son ouvrage « Paris et le désert français ». Et il y a un mouvement hétérodoxe en économie autour de François Pérouse. Qu'est-ce que c'est le développement économique? Quel rôle jouent les inégalités dans le développement économique, etc. Donc ce terme aura un grand succès, ou ces analyses auront un grand succès. Serge Mallet, c'est aussi le penseur de la nouvelle classe ouvrière. Mais il n'y aura pas de... J'ai vu aucun lien entre les deux. Au contraire, c'est d'un côté, il semble que le colonialisme intérieur, c'est le passé qui ne veut pas mourir. Et bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il n'y a pas de liaison qui soit faite véritablement avec l'apparition d'une nouvelle classe ouvrière qui annonce peut-être ce qu'on appelle la société de la connaissance ou des choses dont on parlera 20 ans plus tard. Donc il y a un colloque à Grenoble en 1966, et donc il y a le livre de 67, La révolution régionaliste, dans lequel on voit là une analyse, un chapitre qui est éblouissant sur le colonialisme intérieur. Éblouissant de connaissances géographiques et historiques de, peut-être pas la moindre implantation économique en Occitanie, mais quand même une connaissance époustouflante. Dans ce colonialisme intérieur, d'emblée, il insiste, on fera bien de ne pas oublier l'adjectif intérieur. Donc c'est un positionnement qui est très clair et qui est fidèle à cet attachement à la conception de la France, nation révolutionnaire, au génie révolutionnaire de la France, qui parcourt toute l'œuvre de Lafont, et il insiste vraiment sur 1789, qui a finalement dispersé les cendres de Montségur. Donc on a un nouveau contrat, et il n'y a pas à toucher à ce contrat. Et au contraire, la vocation de cette recréation de la France, c'est justement de donner l'autonomie à tous les niveaux, et il y a eu une perversion, et lui, il revendique le jacobinisme pour sa conception. Donc là, c'est extrêmement subtil, hein, ce renversement. Les vrais jacobins, c'est ceux qui demandent l'autonomie à tous les niveaux. Il fait référence à la constitution de l'an 1, et il dit que c'est une perversion, un accaparement par la bourgeoisie, que ce que nous connaissons d'un État jacobin qui s'immisce partout et qui, en fait, défend les intérêts des possédants. Alors, je vais aller vite maintenant sur le reste. Bon, ce colonialisme intérieur, il l'analyse en détail. Il fait le tour de la dépossession industrielle, de la primauté des industries extractrices, de la dépossession du domaine agricole, de la dépossession des circuits de distribution, de la dépossession des ressources touristiques. Donc il y a une analyse fouillée qui n'a pas toujours... qui, je crois, éclaire sur un moment de la situation économique des régions occitanes dans les années 1960. Mais, voilà, donc, comment sortir de là? Eh bien, il faut en revenir à la France, nation révolutionnaire aliénée. Elle ne peut retrouver son visage authentique, donc celui de la Constitution de l'an 1, qu'en combattant les forces qui corrompent en elle le contrat national, c'est-à-dire en se décolonisant. La révolution sociale est possible en France, elle correspond même au génie français le plus authentique. Mais il faut pour cela déterminer dans le grand point de rupture dans la société française actuelle les problèmes économiques régionaux. Donc on rejoint, je crois, ce qui a été dit, ce mélange ou cette jonction entre revendications sociales et revendication, disons, nationalitaire. Donc je crois qu'on a cette expression, donc 1967. Alors, cette idée du concept, le concept de colonialisme intérieur va se diffuser, c'est-à-dire l'idée de la dépossession, l'idée qu'il y a des mécanismes économiques qui appauvrissent les régions occitanes, va se diffuser en Occitanie. J'ai retrouvé une revue, on parlait des excellentes revues qu'avait animées, où on retrouvait la patte de Robert Lafont. Il y a aussi la revue Dire, qui a succédé à Biure, qui était bien sûr elle-même tout à fait remarquable. Il y a un article assez long de Barelli, il me semble que j'avais dû le sauter, parce que c'est, de toute façon, ça nous aurait aidé pour l'Occitanie, ce qu'on a pu écrire. Donc ça se diffuse à l'intérieur, ces idées se diffusent et se déforment nécessairement à l'intérieur de l'Occitanie. C'est repris par Morvan Lebesgue sur le cas breton, et ce sera repris au Royaume-Uni par Michael Echter, qui va dire qu'il y a un colonialisme intérieur pour la frange celtique de la Grande-Bretagne. Donc et ça donnera lieu à beaucoup d'analyses, donc en dehors même de la France. Alors, que se passe-t-il ? Le problème, c'est que cette société dans laquelle on dit, bon, il va y avoir, on a en tête le modèle d'émancipation des nations colonisées. Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est assez différent. C'est ce qui a été peut-être face au journalistique, mais qui correspond à une réalité qu'on n'avait pas bien perçue en 1967, c'est la revanche du Sud. Les campagnes et les usines se vident, mais les lycées et les universités se sont remplis dans les années 1960, et on va avoir une position dans laquelle va émerger le nouveau capitalisme de la société de la connaissance, dans laquelle les régions occitanes ne seront pas tellement à la traîne, au contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura qu'elles tireront tout le profit qu'elles pourraient tirer de leur situation. Donc, cette situation heurte un peu ce qui était dit sur le modèle de décolonisation qui découlait des analyses du colonialisme intérieur, dans lequel ce qu'on voyait, c'était répété. Donc, révolution ouvrière ailleurs, en Occitanie, compte tenu du poids de la paysannerie, une large part de responsabilité doit revenir à la paysannerie pauvre et angoissée. L'angoisse peut être une préface à la conscience. Donc, énormément d'éléments dans ce sens-là qui montrent qu'il y a, me semble-t-il, une grande cohérence jusqu'aux dernières années. Bien. Alors, juste un mot, puisqu'il y aura une intervention catalane après, pour laquelle on m'a demandé d'abréger mon intervention. Donc, Jordi Pujol est né en 1930, donc c'est le cadet de Robert Laffont, et en 1960, il lance l'idée « Faire país », dans lequel il dit, bon, il y a une situation dans laquelle la catalanité est dominée par Madrid, est oppressé, et donc pour cela, il faut aller au charbon, finalement, il faut faire fonctionner le pays. Pour cela, ça va, il y a la langue, l'orientation, etc., une encyclopédie, mais il y a aussi la constitution d'une banque qui va justement permettre une émancipation. Donc c'est pas derrière qu'il y a un rassemblement large de forces, y compris de forces capitalistes, c'est maintenant, en 1960, qu'il faut créer les instruments pour sortir de là. Donc, on essaiera de joindre ces positions dans l'Eurocongrès, et je dois dire que jusqu'au bout, la réflexion de Robert Laffont sera en marche. C'est lui qui a attiré mon attention sur Kenichi Omae, la fin de l'État-nation, et le monde dans lequel il y aurait des régions en pointe. Et Kenichi Omae, comme vous le savez, voit comme région en pointe à Catalogne et le Languedoc. Donc ces grandes régions pour lesquelles il voit un rôle de premier plan dans la société du XXIe siècle. C'était, je crois, ces idées qu'il avait aussi en lançant le projet Occitan, un livre dont j'espère qu'il pourra être mené à bien. Merci de votre attention.
À causer une conférence de Alain Alcouf, économiste à l'Université de Toulouse 1, sur la notion de colonialisme intérieur, d'après Plus Libre et la réflexion de Robert Laffont.